Et bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la France des antipodes. Le drapeau français continue, tira-t-il, à flotter sur la Nouvelle-Calédonie. Référendum d'indépendance dimanche, journée historique. Nous serons à Nouméa avec notre envoyé spécial dans un instant. Aux États-Unis, J-4 avant les élections de mi-mandat et cap sur la Floride où l'attentat de la synagogue de Pittsburgh pourrait bien faire basculer la communauté juive et l'État côté démocrate. Le Brésil de Bolsonaro, c'est cette décision annoncée cette nuit, le transfert de l'ambassade brésilienne à Jérusalem, comme Donald Trump l'a fait avant lui. À 8h20, Nicolas, vous revenez sur l'élection du président brésilien, nouvel accès de dégagisme, loin de chez nous.
Oui, on va en parler avec le politologue Dominique Régnier, il est par ailleurs directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Ami auditeur, appelez-nous 01 45 24 7000.
À la une également, l'inquiétude des salariés d'Alstom, repris par General Electric il y a 3 ans, l'Américain subit des pertes colossales et rien ne l'empêchera de licencier en France à partir de l'an prochain. Federer, superstar à Bercy avant les quarts de finale aujourd'hui. Et puis une compétition de jeux vidéo et sa finale à Paris l'an prochain, pas du tout anecdotique. League of Legends, c'est le plus joué des jeux vidéo au monde.
France Inter.
Selon l'ONU, c'est la dernière colonie française, la Nouvelle-Calédonie, annexée en 1853 par Napoléon III. Après 164 ans des années de quasi-guerre civile entre Kanak et Caldoche et un accord de paix, il y a 30 ans, cette collectivité française du Pacifique décidera de son avenir dimanche. Référendum pour ou contre l'indépendance, un peuple face à son destin. Pour cette indépendantiste de 28 ans, elle s'appelle Sybille.
Être ici le 4 novembre et avoir la possibilité de voter, c'est historique. C'est pas donné à tout le monde, une fois dans sa vie, de décider de l'avenir de son pays et de l'endroit où il va vivre, l'endroit où il va construire sa vie. On a envie que ces relations elles soient assainies, harmonieuses, mais aussi qu'elles soient transparentes, qu'elles soient reconnues. Que chacun soit capable de se regarder dans le blanc des yeux et qu'il n'y ait pas de faux semblants, mais il n'y ait pas non plus de rancune. Et une rancune qui, pour certains et certaines, c'est devenu un poison parce que ça ronge de l'intérieur et c'est une mauvaise chose.
Sybille, au micro de Mathilde Dehimi, vous êtes avec nous, Mathilde, en direct de Nouméa. Cette jeune femme parle d'un moment historique. Vous avez assisté à la fin de la campagne et paradoxalement, elle n'a pas été très haute en couleur, cette campagne.
C'est vrai que si on le met en regard des attentes, 30 ans depuis les accords de Matignon puis de Nouméa, on peut s'étonner, Florence, que la campagne ait été aussi calme, voire tardive, reprochent certains. Mais en 30 ans, les choses ont avancé ici. La Calédonie a gagné en autonomie et les sondages annoncent une victoire large du non à l'indépendance. Il n'y a pas eu de gros accrochages sur le terrain, quelques tensions verbales sur la fin. Campagne électorale calme donc, qui se termine officiellement ce soir dans 6 heures pour nous ici, Florence.
Et Mathilde, derrière cette question simple, oui ou non à l'indépendance, quels sont les enjeux de ce scrutin ?
Alors c'est vrai, c'est un vote pour ou contre l'indépendance. 3 partis politiques dits loyalistes appellent à son maintien comme territoire français. 2 autres sont indépendantistes et un dernier, indépendantiste aussi, appelle lui à l'abstention. La Calédonie est déjà une mini-nation dans la nation française. Les différentes institutions locales couvrent presque toutes les compétences, sauf les pouvoirs régaliens de l'État français, notamment la défense et la justice. Et l'enjeu principal est de savoir si une Calédonie indépendante pourra se charger de ses compétences en renonçant à l'argent transféré par Paris, 1,3 milliard euros par an. L'indépendance ne se fera pas en un jour, disent la majorité des indépendantistes. L'État français nous accompagnera, mais il s'agit de recouvrer avant tout notre dignité, car nos ancêtres kanaks étaient considérés comme des sous-hommes. Pour les anti-indépendantistes, la Calédonie a tout à perdre sans la France. Ils ne pensent pas qu'un deuxième ou un troisième référendum facultatif dans les 4 ans changera la donne annoncée par les sondages. La différence entre ces partis loyalistes se fait sur la volonté de dialoguer avec le camp d'en face au lendemain du scrutin.
Mathilde Dehimi en direct de Nouméa avec Laurent Maketti. Emmanuel Macron s'exprimera dimanche après les résultats de ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Édouard Philippe sera à Nouméa dès lundi.
Il est 8h05, Florence. Donald Trump est la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat, mardi.
Les Républicains pourraient perdre la Chambre, ils devraient conserver le Sénat et on sent comme une fébrilité du président américain qui en rajoute chaque jour un peu plus sur les migrants. Les militaires pourraient leur tirer dessus à la frontière mexicaine, dernière sortie en date hier soir. Donald Trump en campagne toute la semaine, il est passé par la Floride où le scrutin au poste de gouverneur sera très serré mardi entre le démocrate et le républicain et l'attentat de Pittsburgh pourrait faire basculer cet État qui abrite la plus forte population juive des États-Unis après New York. Reportage sur place, signé Claude Guibal.
La nuit est tombée sur Orlando. Assis sur une balancelle, Alan Frankel a l'air grave. Ce soir, il est venu rendre visite à son amie Judy. Tous les deux font partie de la communauté juive de Floride. Mais alors que la principale publication juive des États-Unis a appelé ses lecteurs à voter pour le républicain Ron DeSantis, Alan ne veut pas en entendre parler. Pour lui, le discours décomplexé de Donald Trump est partiellement responsable de la tragédie.
Ce à quoi on assiste, c'est à l'escalade. L'extrême droite se sent autorisée à dire des choses. On savait que ça existait, mais maintenant, c'est verbalisé. Et c'est ça qui a permis à cet homme de passer à l'acte à Pittsburgh.
Sous le porche, Judy laisse éclater sa colère.
En tant que juif, je trouve ça terrifiant. Et il utilise son gendre comme caution juive. Et oubliez Trump une minute, le reste des républicains. Pourquoi ils ne disent rien? Ils sont où? Trump, c'est un dingue. Mais eux qui ont l'habitude de faire de la politique, ils savent que ce qu'il fait est mal, mais ils ont vendu leur âme au diable.
Des larmes de colère font briller ses yeux. Que Donald Trump ait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël n'est qu'un leurre, ajoute-t-elle, alors qu'à la veille de ses élections, la société américaine n'a jamais été aussi crispée autour de ses multiples identités. Orlando, Jérémy Tuile, Claude Guibal, France Inter.
Comment Pittsburgh peut faire perdre la Floride à Donald Trump? C'est aussi sur franceinter.fr. Et sur les pas de Trump, le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, il n'a pas encore pris ses fonctions, mais déjà, il annonce le transfert de l'ambassade brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem. Décision ultra sensible, alors que Jérusalem n'est pas reconnue par la communauté internationale comme capitale d'Israël. Les Palestiniens la revendiquent également. Le Brésil est donc en train de renoncer à sa neutralité, Anne Vigna.
Les bonnes relations qu'avait le Brésil avec le monde entier sont en passe de se terminer. La polémique commence déjà avec le monde arabe. Jair Bolsonaro a confirmé hier qu'il allait bien transférer l'ambassade brésilienne à Jérusalem. Le président élu considère qu'Israël a tous les droits de choisir sa capitale. Dans une interview à un quotidien israélien, il a aussi estimé que l'ambassade de la Palestine à Brasilia était trop près du palais présidentiel et que la Palestine n'était pas un État pour avoir une ambassade. Le Brésil avait reconnu l'existence de l'État palestinien en 2010. Le premier ministre israélien a qualifié la décision d'historique et devrait se rendre au Brésil pour la prise de fonction du nouveau président en janvier prochain. La décision du déménagement de l'ambassade était une promesse de campagne. Elle avait déjà préoccupé les producteurs brésiliens de protéines animales qui vendent près de la moitié de leur production de poulet et de viande bovine aux nations musulmanes. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
Décision historique saluée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui félicite cette nuit son ami Bolsonaro. Bolsonaro qui hésite à supprimer le ministère de l'Environnement, plus si sûr de le fusionner avec le ministère de l'Agriculture qui poursuit des buts totalement différents. Nous avons l'intention de protéger l'environnement, dit-il, mais sans que cela entrave le progrès. J'exige que ceux qui ont prémédité, ordonné et commis l'assassinat de Jamal Khashoggi soient jugés. Pour la première fois, la veuve du journaliste saoudien tué dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul s'exprime dans les colonnes du Monde ce matin. En cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Et puis alors que la colère monte en France contre la hausse du prix de l'essence et du gasoil, 78% des Français soutiennent la mobilisation du 17 novembre, selon un sondage Odoxa. La Russie, confrontée au même problème, emploie la manière forte. Vladimir Poutine vient d'obliger les compagnies pétrolières russes à geler leurs prix, tout simplement jusqu'au mois de mars, sous peine de taxes à l'exportation.
8h09, de quoi seront faits les mois qui viennent chez Alstom ?
Dossier explosif en perspective, l'activité turbine à gaz du fleuron français est désormais sous pavillon américain, racheté par General Electric en 2015 avec la bénédiction d'Emmanuel Macron, alors à Bercy. Or, GE va mal. Le groupe a enregistré 23 milliards de dollars de pertes ce trimestre et dès l'an prochain, il ne sera plus obligé de préserver l'emploi en France. 16 000 salariés, dont un quart sur le site de Belfort, inquiet, évidemment Maxime Debs, pour leur avenir.
À tout prix, stopper l'hémorragie en début de semaine. La première décision du groupe a été de mettre, un, ses actionnaires au pain sec, fini les dividendes, désormais réduits à portions congrues, puis deux, pour se redonner de l'élan, GE a fait savoir qu'il allait réorganiser toute sa filière énergie. Pourquoi faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Henri-Louis Umbrecht, délégué CFE-CGC à Belfort, a connu discours plus rassurant.
On a quand même très très peur parce que le groupe est fortement endetté. Le précédent PDG est resté à peine 14 mois avant d'être limogé et remplacé par quelqu'un d'extérieur. quelles décisions peuvent-ils prendre ?
C'est qu'en France, syndicats comme salariés ont appris à se méfier depuis cette promesse en 2015, ces 1000 emplois nets que GE s'était engagé à créer dans l'Hexagone sur 3 ans. Les 3 ans arrivent à leur terme et on est à peine au tiers. L'engagement vis-à-vis de l'État ne sera pas tenu et le pire reste encore peut-être à venir.
Il faut quand même savoir qu'après le rachat de la branche énergie d'Alstom, il y a quand même eu un plan de 12 000 suppressions de postes en Europe. La France a été épargnée, mais c'était subordonné aux 1000 emplois. Tout ceci se termine le 31 décembre. À partir du 1er janvier, GE a les coups des France pour prendre toutes les décisions qu'il veut.
Dans ce climat d'incertitude, les syndicats demandent à voir Édouard Philippe. Leur courrier est jusqu'ici resté sans réponse.
Et où seront jugés les différents commerciaux des multinationales après le Brexit ? Jusqu'à présent, la justice britannique avait souvent la main sur les gros dossiers. Et si Paris la reprenait la main, les appétits s'aiguisent là aussi. Sarah Guibaudeau, la justice parisienne est en train de s'adapter pour récupérer les dossiers du commerce international.
Là, nous sommes dans un tribunal américain, mais à Paris, on peut désormais s'exprimer en anglais au tribunal de commerce et à la cour d'appel qui a créé une nouvelle chambre internationale. L'annonce du Brexit a donné un coup de fouet à la justice parisienne. Le tribunal de grande instance, dans son palais flambant neuf des Batignolles, a aussi mis son pôle économique et commercial en ordre de bataille. Pour son président Jean-Michel Ayat, c'est une occasion historique.
On s'adresse à des sociétés qui travaillent sur le marché européen et qui vont voir si c'est en Allemagne, en France ou en Angleterre que la solution judiciaire interviendra le plus rapidement. Donc c'est à nous de démontrer qu'on est véritablement compétitif. Si on rate ce train-là, on va rater le train de l'histoire parce qu'on nous renverra à la gestion des affaires du quotidien alors qu'on peut faire beaucoup mieux et avoir des ambitions beaucoup plus hautes.
Pour séduire les entreprises, il faut donc redorer l'image d'une justice française souvent décrite comme lente et compliquée. En attendant l'issue des négociations sur le Brexit, aujourd'hui les décisions de justice britanniques s'appliquent automatiquement dans l'Union européenne. Si demain ce n'est plus le cas, les avocats de Londres vont perdre une bonne partie de leur chiffre d'affaires.
Sarah Guibaudeau, plus de risque de crue dans le Var ce matin. Météo France a levé sa vigilance. Et puis information pratique, le RER B sera fermé ce week-end en région parisienne. En raison de travaux, il faudra trouver une autre solution si vous voulez vous rendre à l'aéroport de Charles de Gaulle. Fermé le RER B entre la Plaine, Stade de France et l'aéroport de Charles de Gaulle.
Et donc, à 8h13, cap sur les quarts de finale de l'Open de Paris aujourd'hui.
Djokovic et Federer sur le court. Le roi Federer, devrait-on dire, accueilli comme une rockstar après 3 ans d'absence à Bercy. Il s'est qualifié facilement face à l'Italien Fognini hier soir. Et après le match, c'était encore le spectacle, Fabrice Abgral.
Roger Federer est bien de retour à Paris et dès son entrée sur le court, le public parisien lui a réservé un accueil digne d'une rockstar. Les gradins de Bercy étaient archi-combles, les spectateurs étaient tous venus pour lui, pour le voir jouer et si possible gagner. Et ils ont été comblés. Le match n'a duré qu'une heure un quart, 75 minutes de pur bonheur pour tous les spectateurs. Et à la fin du match, Roger Federer a pris le micro.
Tellement content d'être de retour, merci beaucoup d'être venu. Un vrai plaisir. Je sais, je vous ai fait attendre peut-être, je suis désolé, mais bon. J'ai 37, j'ai 4 enfants, c'est difficile, mais quel plaisir d'être de retour. J'ai vraiment beaucoup régalé aujourd'hui sur le terrain, merci.
Roger Federer a été touché par l'accueil du public parisien et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse.
De pouvoir les remercier, de les saluer, c'était quelque chose qui était important pour moi. C'est vrai que forcément ça m'a aussi manqué de jouer ici. Je me souviens forcément aussi à des moments très forts ici à Bercy et aussi à Roland. Et ça m'a fait énormément de plaisir d'avoir cet accueil-là ce soir.
Et ce sera encore pareil aujourd'hui, mais beaucoup plus tard, puisque Roger Federer ne devrait pas jouer son quart de finale avant 21h.
Federer face à Kei Nishikori donc et Djokovic face aux Croates, Marin Cilic en quart de finale à Bercy. On peut être roi dans sa discipline et très médiocre ailleurs. Bah oui, Usain Bolt qui rêvait d'une carrière de footballeur après ses multiples sacres au sprint a été remercié par le club australien des Central Coast Mariners. Fin de la période d'essai pour l'homme le plus rapide du monde. Il a déjà échoué en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège. Et puis ça n'est pas du sport, mais c'est de la compétition tout de même. Et c'est Paris qui accueillera la finale mondiale du jeu vidéo le plus joué au monde, League of Legends. Elle aura lieu cette finale à Bercy en 2019. Des millions de pratiquants suivent chaque année cette compétition. Et les Français ne sont pas les derniers, Jade Péchira.
avec ses équipes, ses écrans géants, ses ralentis pour revoir les meilleures actions, ses commentateurs.
Et finalement, le vol qui sera fait, ce sera subtilisé.
Et ses joueurs de haut niveau, entre leurs mains, pas de balle, mais un clavier et une souris.
On l'appelle communément un jeu de tower défense, c'est-à-dire que vous avez des tours à défendre, vous avez des tours à attaquer.
Stéphane Hutin est le président de l'association France e-sport.
Donc avec des personnages, vous devez faire tomber ces tours une à une jusqu'à la tour principale. Une fois que la tour principale tombe, vous avez gagné. Vous avez une énorme phase de stratégie dans ce jeu, de réflexe. Quand on pratique et qu'on voit des joueurs de très haut niveau, on sent la performance. C'est un spectacle, c'est un show.
Un spectacle très largement suivi. Paris attend près de 20 000 spectateurs. Jean-François Martin est adjoint au sport à la mairie.
Au même titre que l'Euro 2016 de football, le championnat du monde de handball ou la Coupe du monde de foot féminin qui arrive l'été 19, c'est un grand événement sportif. Des milliers de supporters, de techniciens, de joueurs, d'équipes qui viennent du monde entier et qui font vivre le tourisme à Paris. Et puis c'est aussi à un moment donné où Paris va rayonner à travers le monde pour des millions de téléspectateurs. C'est toujours bon pour l'image de Paris.
Jusqu'à 50 millions de téléspectateurs pour un seul match.
Eh ben on va s'y mettre, hein, Nicolas ouais. Demorand va défendre les tours de League of Legends.
Merci Florence Paracuelos.